Bonjour Denis Saint-Amand.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur qualifié au FNRS à l'université de Namur et vous êtes spécialiste en littérature française des 19e, 20e et 21e siècles. Alors pour nos auditeurs étudiants et français, vous voudriez nous expliquer pourquoi cette littérature française et non pas la littérature belge francophone ou francophone tout court?
Ça date de mes études en fait. En Belgique, on a un cours de littérature belge francophone qui est obligatoire dans toute une série d'universités, dans des universités francophones du pays. Et le fait est simplement que moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt la littérature française avec des auteurs comme Rimbaud, Baudelaire, Flaubert, en fait très 19e siècle dans un premier temps.
C'est-à-dire qu'il y a un exotisme de la littérature française côté belge?
Ah, peut-être. En tout cas, dans la pensée de la littérature belge, il y a différentes phases. Il y a une phase d'émergence de la littérature belge qui correspond plus ou moins aux premières années de... Enfin, la naissance du pays. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est vraiment de parvenir à créer une littérature qui serait spécifique à la Belgique. Et puis, tout au long de son existence, la littérature belge, la littérature belge francophone, a souvent eu tendance à lorgner vers l'hexagone en se demandant, bon, est-ce qu'on fait comme nos voisins ou est-ce qu'on s'en distingue? Et en fonction des phases, des moments, il y a des périodes plutôt centripètes et plutôt centrifuges, c'est-à-dire des moments où on essaye plutôt de ressembler au centre parisien et des moments où on essaye de s'en distinguer.
Alors, je ne résiste pas à citer Jacques Dubois, puisque vous êtes aujourd'hui à Tours pour un séminaire, Écriture et concepts en mouvement. Donc je cite cette chose issue de l'institution de la littérature de Jacques Dubois, voilà, qui désignait comme littérature sauvage les écrits qui, je cite, ne participent d'aucun réseau de production-diffusion qui s'exprime de façon plus ou moins spontanée et se manifeste à travers des canaux de fortune. Alors comment on en vient à s'intéresser à ce sujet d'étude? Comment on devient spécialiste en littérature
sauvage.
Merci.
C'est encore une très bonne question, je vous remercie. En fait, je crois que j'ai toujours été un peu attiré par ce qui est situé du côté des marges, ce qui est situé du côté de l'ombre, ce qui questionne un petit peu les normes. Ça a commencé par un mémoire de maîtrise qui était dévolu à l'album Zutik. L'album Zutik, c'est quoi? C'est un manuscrit complètement potache que Rimbaud, Verlaine, les frères Cros, Cabaner, Albert Mera et toute une série d'autres poètes oubliés aujourd'hui se sont mis à composer en 1871. En se rassemblant en secret pour vivre entre eux leur adhésion à la Commune de Paris, qui avait eu lieu quelques mois plus tôt et dont la répression était toujours au goût du jour, et pour se distinguer aussi du grand mouvement poétique de la période, c'est-à-dire le Parnasse, qui leur apparaissait trop guindé, trop dogmatique. Donc, en travaillant sur cet objet-là, quand j'étais encore étudiant, je me suis dit que ça me plaisait pas mal de travailler sur ces logiques de détournement, de parodie, d'évolution aussi à l'écart de la norme. Et je crois que c'est un petit peu une sorte de fil rouge dans ma trajectoire universitaire. J'ai beaucoup travaillé sur ces objets illégitimes. Et ça m'a permis aussi donc de me projeter là plus récemment du côté de productions qui sont tout sauf littéraire au sens institutionnel du terme, c'est-à-dire des productions comme les graffitis, les tags, les collages, les banderoles, voilà.
Mais alors quand on est étudiant et un futur chercheur, ou chercheur en processing, oui. Pourquoi on a envie de s'encanailler dans ces objets de recherche?
Alors je dirais pas que c'est de l'encanaillement, mais votre question me permet de rendre hommage non seulement à Jacques Dubois, qui m'a beaucoup inspiré à tout point de vue et dont les travaux sont essentiels. Vraiment, j'essaye de... Enfin, il n'y a pas un texte que je fais où il n'y a pas une présence de Jacques Dubois qui est quelque part là derrière. Mais j'aimerais aussi rendre hommage à mon directeur de mémoire de maîtrise et mon directeur de thèse, qui est Jean-Pierre Bertrand, qui est décédé il y a un an maintenant, et qui... m'a toujours fait une pleine confiance, c'est-à-dire que lui aimait bien cette idée d'aller voir aussi un peu à l'écart de ce qui est normé, et de Vous savez, en fait, j'étais un peu passionné par Rimbaud et je me rendais compte qu'il y avait un trou dans sa trajectoire, il y avait une chose qui était largement moins commentée, alors que sa trajectoire n'est pas très longue. C'était ce passage par Paris et ce passage par cette aventure zutique qui apparaissait bien peu, enfin plutôt grossière, potache et bien peu encline à être répertoriée dans la Pléiade, si vous voulez. Et donc, voilà.
Donc ça participait de l'œuvre de cet auteur, en
Oui,
fait.
Tout à fait. Mais c'était une sorte d'œuvre un peu secrète, c'est-à-dire une sorte de rassemblement de post-étudiants ou de jeunes adultes qui avaient envie de se défouler et d'expérimenter dans un manuscrit sans vouloir le publier un jour, simplement pour vivre entre une sorte d'activité qui leur permettait d'assumer une certaine forme d'hétérodoxie aussi.
Et alors, parmi ces littératures sauvages, hein, vous l'avez dit, il y en a de plusieurs ordres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un salon des refusés, c'est-à-dire ceux qui n'entrent pas dans le bon goût. Donc, voilà, vous évoquiez justement cette littérature grossière, voilà, un peu scatologique peut-être. Du coup, est-ce que pour ces gens-là, ils ont quand même des velléités littéraires?
Oui, ça peut arriver. Et alors, en fait, du côté des littératures sauvages, on trouve des gens qui se rendent bien compte que s'ils essayent d'entrer dans le milieu littéraire par les moyens traditionnels, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Donc, ils pressentent d'une certaine façon leur future proscription, leur future mise à l'écart, et ils se disent, bon, bah, autant essayer de tenter le coup autrement. Donc, on n'est pas exactement dans la logique du salon des refusés, parce que dans le salon des refusés, ça veut dire que dans un premier temps, on propose quand même aussi ses œuvres, et puis on se met à l'écart, et on revendique d'une certaine façon le fait de ne pas avoir été reconnu par la critique. Du côté des utistes, là que j'ai évoqué, il y a plutôt une manière de ne pas du tout jouer le jeu, de refuser de jouer le jeu traditionnellement.
Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, l'idée de quelqu'un qui dit ben moi, je vais m'auto-éditer tout seul sur Amazon?
Ouais, c'est une bonne question aussi. Où est-ce qu'on va la mettre, cette situation-là? On va la mettre du côté de quelqu'un qui, malgré tout, a envie de vendre ses livres, alors qu'il n'y a pas du côté des utistes, là par exemple, que j'évoquais, du côté de toute une série de personnes qui, aujourd'hui, écrivent simplement sur les murs ou font circuler des textes. Je pense notamment à un beau projet d'une personne qui s'appelle Louise Moulin et qui, après avoir animé Plein le dos, qui était cette plateforme d'archivage des gilets jaunes, enfin des écritures sur les gilets jaunes. Aujourd'hui, elle a lancé un blog qui s'appelle Y'a plus qu'à, qui est pleinement en accès libre et qu'on peut trouver aussi distribué à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'elle s'inspire des papillons surréalistes et qu'elle les distribue dans des espaces publics ou qu'elle les colle sur les murs aussi. Voilà, là il y a une logique qui dépasse la logique marchande, qui vise simplement à faire circuler des textes, faire circuler des idées. Et cette mise en circulation, en fait, c'est parce que vous avez dit se faire auto-éditer sur Amazon. Hein, c'est le mot Amazon qui me crispe un peu, mais du côté de l'auto-édition et des formes de production amateur, il y a aussi toute une série d'éléments qu'on peut aller chercher qui sont intéressants à observer. Mais peut-être que ce n'est pas tout à fait sauvage.
Ouais, est-ce qu'on peut parler de littérature sauvage à partir du moment où c'est une personne qui se définit comme artiste professionnel ou auteur professionnel?
À partir du moment où vous êtes intégré dans un champ littéraire ou dans un champ artistique, vous témoignez d'un certain nombre de connaissances de ce milieu-là. Alors, j'ai pas envie de surjouer le caractère pur, vierge, libéré de toute connaissance de ces écrivains ou de ces auteurs dont je dis qu'ils participent d'une littérature sauvage. Mais vous avez raison de pointer le fait qu'appartenir à un milieu créatif ou à un milieu artistique, un milieu littéraire, c'est en connaître une certaine partie des codes. Et du côté de la production sauvage, ce que j'aime bien, c'est cette découverte très approximative des codes, avec parfois un fonctionnement par erreur. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que les littératures sauvages, c'est d'un côté des CSP+ qui s'amusent et de l'autre côté des CSP moins bah, qui font ce qu'ils peuvent?
Je jouerai pas sur cette distinction classiste-là. Il me semble que vous pouvez tout à fait Enfin, il me semble que on peut être sauvage des deux côtés, vraiment. Il y a parfois des jeunes gens qui... Vous parlez d'encanaillement tout à l'heure. Il y a parfois des jeunes gens qui viennent de milieux très favorisés et qui optent pour des logiques de production artiste par lesquelles ils se sabordent d'une certaine façon. Et ça peut être très beau.
C'est quoi, par exemple?
Ah non, je le dis comme ça. Il y a plein de productions amateurs et je pense pas à un objet particulier.
On peut penser aux fanzines.
Oui, mais alors, les fanzines, c'est ça, c'est les fanzines, les revues bricolées, les revues amateurs, tout ça participe aussi de productions qu'on pourrait considérer comme sauvages. C'est-à-dire que ce sont des premiers moyens par lesquels on peut s'exprimer, on peut faire circuler ces productions. Et en fait, tout ça se fait vraiment à bas coût, hein, c'est-à-dire que ça ne coûte pas grand-chose d'imprimer et de photocopier... Des pages comme ça. En fait, depuis le début de cette interview, je dois dire qu'on a un cours d'italien juste à côté, c'est assez perturbant, donc mes réponses sont parfois assez... Donc je reviens au fanzine pour dire que, oui, comme je l'indiquais, on a là un moyen assez efficace de faire circuler des premières productions auprès d'un public plus ou moins large, sans trop dépenser d'argent. Et donc, on peut considérer que les fanzines, ça participe d'une forme de littérature sauvage, oui. C'est un des terrains que j'aimerais bien explorer dans les années qui viennent.
Ah oui, surtout pour les contenus militants. Donc, dans votre présentation, vous en avez montré plusieurs, notamment ouais. le travail que vous faites actuellement sur les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, c'est un cas peut-être différent. Alors, quand c'est des tracts, par exemple, de mai 68 ou des choses comme ça, donc c'est des gens qui sont étudiants ou professeurs ou intellectuels, est-ce que quand on se définit contre une institution, on est vraiment de la littérature sauvage? Parce que se définir contre, c'est quand même être lié à...
Oui, non, ça n'implique pas forcément. Si, par exemple, un professeur... publie un tract contre le mode de fonctionnement de son université, ça ne veut pas dire qu'il participe d'une production sauvage non plus. Y a un beau texte d'Arnaud Bertina que j'ai cité tout à l'heure lors de mon intervention, dans lequel il dit au fond par rapport aux tracts, qui sont parfois pesants, qui sont parfois complexes, qui portent des mots d'ordre assez radicaux. La parole vive, elle est plutôt du côté des graffitis, de certains barbouillages, de certaines interpolations comme ça sur des écritures publiques. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine forme de légèreté, qui est de l'ordre d'une certaine forme d'enthousiasme aussi, et c'est plutôt de ce côté-là qu'on peut observer des productions sauvages.
Est-ce que la littérature sauvage est toujours rattrapée par l'institution? Par exemple, dans votre présentation, vous montriez ces livres d'art, en fait, qui sont des compilations en fait, de tracts, de choses comme ça. Peut-être qu'il y en a un sur justement les papillons grands voyants, Amadou, je ne sais pas quoi.
Ah oui, sur les... Ben, y a un travail qui est en train d'être mené là sur comment on appelle ça, oui, des tracts, mais des toutes boîtes, des prospectus de marabouts. Oui. C'est un bel objet aussi, il y a quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de fiction là-dedans. Alors, votre question, c'était, au fond, est-ce que les littératures sauvages sont vouées à être récupérées par l'institution? Quand on voit certains tags de mai 68 et qui atterrissent aujourd'hui dans des beaux livres, dans des volumes qui se vendent très cher et qui esthétisent ou misent en tout cas sur la dimension esthétique de ces écritures, on pourrait le craindre. Y a d'autres devenirs possibles de ces écrits. Le principal, c'est la disparition, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'écritures sauvages qui nous sont inconnues, qu'on n'a pas pu capter, qu'on n'a pas pu thésauriser, qu'on n'a pas pu archiver. Et donc qui sont disparus. Et puis sinon, il y a d'autres formes de... Elles peuvent subsister, être configurées aussi. Je le disais, certains slogans comme « sous les pavés la plage », ça devient aujourd'hui « sous les pavés la bac », par exemple. Bon, le sens est complètement différent, mais ce genre de reconfiguration peut s'observer aussi.
Est-ce qu'il y a des littératures sauvages qui s'ignorent, voilà, qui ne savent pas, ne se considèrent pas comme de la littérature? qui, par définition, ignore l'institution. On peut penser à quelque chose qui s'approcherait de l'art brut, donc une littérature brute, ou alors au musée de l'art modeste qu'on trouve à Sète. Donc là, c'est...
Oui, c'est une très bonne question. Sur le rapport avec l'art brut, je donnerai un exemple qui est celui de Sophie Podolsky, qui était une écrivaine belge, qui a composé un seul volume intitulé « Le pays où tout est permis », un peu avant son suicide en réalité. C'était une jeune femme schizophrène. Alors aujourd'hui, ce cahier qu'elle a composé est republié, il a fait l'objet d'expositions aussi. Mais je pense pas que Sophie Podolsky se pensait elle-même comme une écrivain. Et puis il y a toute une série de productions sauvages qui se pensent pas du tout comme de la littérature, mais qu'on pense aux collages féministes aujourd'hui qu'on trouve sur les murs, qu'on pense aux tags, aux affiches comme ça qui proposent parfois de remettre de la poésie dans nos villes, mais qui ne se pensent pas du tout dans un lien avec l'institution de la littérature. Il me semble que là, il y a des choses qu'on aurait peut-être intérêt à questionner en se demandant si, au fond, leurs effets, leur logique, leur mode de fonctionnement ne sont pas proches de ce que nous appelons littérature. C'est-à-dire que ces écrits-là peuvent reconfigurer un peu nos imaginaires, les bousculer, nous inciter à réagir, nous faire espérer, nous énerver parfois, qu'elles produisent de la fiction, des mondes possibles. Au fond, oui, c'est peut-être ça la littérature.
Et alors, comment dire, que font les réseaux sociaux aux littératures sauvages?
Ils les font circuler, ils les archivent, c'est déjà pas mal. Mais ils peuvent aussi parfois les infléchir, c'est-à-dire que ça peut être grand comme tentation de voir qu'après, que telle personne qui pose avec une bonne pancarte recueille de nombreux likes, et on peut avoir envie de l'imaginer aussi, enfin de l'imiter plutôt que de l'imaginer. Donc ça crée aussi une certaine... ça peut être inspirant, voilà, une zone d'archivage et de mise en circulation, mais aussi une certaine forme d'inspiration.
Donc, est-ce que ce qui compte, c'est d'être lu ou pas quand on fait de la littérature sauvage?
Ça, il faut le demander aux acteurs qui en font, aux acteurs et aux actrices qui font de la littérature sauvage. Pour certains, ce qui importe, c'est d'être lu et de bricoler des moyens d'être lu. Et pour certains, certaines, ce qui compte, c'est de produire leurs petits écrits. Mais ça, je crois que c'est une question qui se pose pour à peu près toute activité d'écrivain, d'écrivaine.
Et vous, alors, est-ce que vous vous adonnez aux littératures sauvages?
Non, là, je réponds par un joker. Peut-être que je l'ai fait par le passé, mais plus maintenant.
Ça veut dire qu'il y a un âge où on arrête?
Je suis pas sûr. C'est une bonne question. Je suis pas sûr. Je crois que c'est bien que certains n'arrêtent pas, certaines continuent à produire ça, sinon peut-être que le monde serait plus ennuyant.
Merci.
Avec plaisir, merci à vous.